Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de Fait. Vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec pour l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je suis Nicolas en compagnie de...
De Guillaume.
Et de Farouko qui dit cette semaine l'émission est dédiée à... Spéciale dédicace Sam Ahmad pour son grand discours. Moi j'aime ça quand on fait un lien droit, étroit et direct entre immigration et assistance sociale. C'est un bon politicien. Parle-moi de ça.
Il fallait lire le Journal de Québec de mercredi matin.
Oui. Ça a l'air que s'il y a tant de monde sur l'aide sociale que ça à Montréal, c'est parce qu'il y a beaucoup de réfugiés.
Et oui, et qu'il faut respecter la Convention de Genève et les aider.
Ah, mais on est bien hein, au Québec, on est gentil.
Abolition la Convention de Genève. Cette semaine à l'émission, qu'est-ce qu'on a cette semaine à l'émission? On va revenir sur la bataille idéologique qui fait rage autour des finances publiques, dont probablement que le dossier ce matin dans le Journal de Québec fait partie. Donc, avant les fêtes, en fait, il y avait des consultations publiques et on a vu les centrales syndicales se faire varloper un peu partout par tout ce que le Québec compte d'idéologues... chroniqueurs, éditorialistes et tout, parce qu'elles osaient dire que ben il faudrait peut-être rajouter un palier d'imposition. On va parler aussi de hausse de loyer, c'est déjà le début de la période de renouvellement des baux, puis bon, on va vous rappeler quelques trucs bons à savoir en cette période pour éviter de se retrouver avec une facture plus salée récurrente, et différentes petites nouvelles. Donc ça, c'est pour moi. Mais je suis pas tout seul cette fois.
Ben moi j'ai aussi une couple de petites nouvelles. Entre autres, on va revenir sur cette île avec la mine d'uranium, le projet de mine d'uranium. Il y a sinon aussi une autre nouvelle économique avec une étude du Centre canadien de politique alternative qui est sortie sur les salaires des grands patrons. Puis j'ai une autre petite histoire là, sur un blockbuster américain qu'on va jaser tout à l'heure.
Ça va bon.
Du cinoche.
Du cinoche, oui. Yeah.
T'as choisi de nous égratigner les tympans
ouais.
Cette semaine, Farouko.
Cette semaine, on vous égratigne les tympans, puis on commence immédiatement avec Esclaves Salariés, avec une de leurs premières pièces enregistrées en plus. Mais refaite sur un album récent. Okay. Ancré dans la peau d'Esclaves Salariés.
We'll be right back.
Alors, de retour à Voix de Fait pour cette première émission de 2010. Il y a un débat qui a commencé à faire rage, disons, avant le temps des fêtes. C'est tout le débat sur les finances publiques. Il y avait des consultations pré-budgétaires et à Québec. Et on peut comprendre que le gouvernement, en fait, voulait mettre la table très clairement pour une hausse de tarifs et pour des coupures draconiennes dans les services publics. Selon les documents qui ont été fournis par le gouvernement du Québec, on veut revenir à l'équilibre budgétaire, donc d'ici 2013-2014, et on prévoit des choix là, relativement importants, dont contre l'évasion fiscale, hausser la TVQ, comprimer les dépenses, en fait l'augmentation des dépenses, et finalement augmenter divers tarifs. En fait, on veut aller chercher 5 milliards de dollars dans les poches des contribuables québécois à terme, en termes de tarifs divers. Et là, on regarde différentes avenues, mais évidemment, bon, on barre la route à toute hausse des impôts, à toute renégociation des échéanciers et tout. Et dans ce contexte-là, les centrales syndicales avaient été plutôt timides dans leurs critiques au début, là, quand on a commencé à parler de hausser les tarifs, mais elles sont sorties en force dans le contexte de la consultation pré-budgétaire. Moi, je m'y attendais plus, mais finalement, bon, c'est la CSN qui a ouvert le bal, qui a été suivi par la CSQ et la FTQ du bout des lèvres, mais quand même, sont sortis pour relancer le débat sur les finances publiques, comme le Frappé et d'autres groupes comme longtemps en avaient fait, là, on en avait parlé plus tôt. Et même la CSN a décidé d'aller au bout de sa logique, plutôt que de simplement déposer un mémoire comme elle le fait d'habitude ou un communiqué de presse, sont carrément allés vers un grand débat en Conseil confédéral de la CSN. C'est la plus haute instance entre les congrès qui regroupe l'ensemble des syndicats et des fédérations et des conseils centraux. Donc, grand débat dans cette instance-là sur les finances publiques, sur l'ensemble de la stratégie de la centrale dans ce contexte-là. Grands articles aussi dans le magazine, un dossier dans Perspective CSN et finalement une brochure de 8 pages pour susciter la réflexion dans les syndicats locaux. Une brochure qui s'appelle « Se donner le Québec qu'on veut ». Vous pouvez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur leur site web. Il y a des liens vers ça. Et là, il y a toute une série de fiches d'informations. Ils ont décidé qu'il n'allait pas juste sortir d'un média, il allait aussi faire un travail important là, d'éducation, au moins de débat à l'interne. Et d'ailleurs, ça va être important ce travail-là parce que quelques jours après leur sortie, Jean-Jacques Sanson a attaqué Claudette Carbonneau dans le Journal de Québec de front en la traitant de communiste en disant qu'elle avait jamais été chercher l'assentiment de ses membres pour des hausses d'impôts et tout. Puis bon, en caricaturant la position. Et d'ailleurs, même sur les ondes de la radio publique, on l'a entendu là dans les bilans de fin d'année, c'est la CSN qui est sortie surtout, parce qu'elle, c'était elle qui donnait le plus de jus. Elle se cachait pas pour dire qu'elle voulait des hausses d'impôts. Donc, on l'a entendu se faire voir le plein un peu partout. Et donc, ça va être un débat qui va être relativement important. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Tout d'abord, il y a que la crise économique est venue attaquer les finances publiques de deux façons. D'une part, il y a des gens qui ont perdu des jobs, il y a des compagnies qui ont fait moins de fric, donc il y a moins d'entrées d'argent que prévu. Mais en plus, le gouvernement a sorti le chéquier pour aider dans le contexte dans le contexte de crise et pour essayer de relancer l'économie. Et donc, il y a tout un ensemble de dépenses qui avaient été prévues, tout un ensemble de nouvelles dépenses qui se sont rajoutées, qui font qu'on se retrouve dans le rouge, et on se retrouve dans le rouge partout en Occident, de façon assez radicale selon les endroits. Il semble qu'ici, ce soit pas si pire, mais bon, il y a une pression assez forte sur les finances publiques.
Tu sais, l'intervention de l'État en crise, c'est comme l'idéologie libérale en tant que telle, sauf que ça vient en même temps nier un très grand pan du néolibéralisme qui dit l'utilisateur payeur. Les banques ont utilisé nos impôts des particuliers, mais ils payent quoi?
Non, ils payent pas grand-chose. Et ils payent de moins en moins, en fait. La part des compagnies dans les finances publiques est très basse. Et là, le gouvernement, donc, il est dans un exercice, finalement, pour écrire un budget qui va sortir normalement en mars. Et donc, on a prévu un peu là, où est-ce qu'on s'en allait, mais là, on se demande où est-ce qu'on va s'en aller pour les cinq prochaines années, comment est-ce qu'on va revenir finalement au déficit zéro, le sacro-saint déficit zéro. Et là, on propose un horizon, et c'est ça qui est sur la table, et c'est ce qui est sous forme de consultation. Et bon, la première affaire qui revient là-dedans, qui est un peu spéciale, c'est que la province de Québec semble se diriger vers l'horizon le plus serré de retour aux finances publiques saines de tout l'Occident. C'est-à-dire qu'on veut revenir au déficit zéro d'ici l'exercice budgétaire en 2013-2014.
Oui, mais pour nous, c'est un dogme depuis Lucien Bouchard.
Oui, je sais. Mais il n'empêche que même les conservateurs de Harper pensent qu'ils ne reviendront pas au déficit zéro avant 2017.
Hein, ils ont même prorogé la session parlementaire pour y penser.
Y penser bien comme il faut. Donc, partout ailleurs dans le monde, on dit ah, ça va prendre plus de temps que ça. Et au Québec, on dit ah, mais il y a peut-être des signes de reprise. On n'a pas été si touché que ça, donc on va pouvoir y arriver plus vite. On veut être les premiers de classe. Donc ça, c'est la première affaire. Et cet échéancier serré là, et le même échéancier en fait qu'avait fait adopter Lucien Bouchard justement lors de la dernière course au déficit zéro au milieu des années 90, où on avait voulu arriver au déficit zéro en 4 ans, et où il est arrivé finalement en 3, ou 5, 4.
Ouais, il y a aussi du monde qui disent qu'on n'y est jamais arrivé.
Ouais, mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'on veut arriver au même type de déficit zéro que dans ce temps-là. Peut-être qu'on y était jamais arrivé à l'époque. Mais bon, on veut y arriver assez rapidement. Et là, donc c'est dans ce contexte-là qu'on essaie de faire passer sous couvert de choix budgétaires, de choix comptables, finalement, des choix politiques. Et c'est là où est-ce que le débat se situe. C'est tout le débat se situe sur quel type de service public et qu'est-ce qu'on fait avec les services publics. Et il y a qui paye pour aussi, évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières années, le gouvernement libéral et avant lui le gouvernement péquiste ont eu des objectifs relativement ambitieux de baisse d'impôts. On se souvient, la dernière grosse baisse d'impôts en date, c'est quand à l'élection, il y a deux élections en fait,
2007,
ouais, c'est ça, quand les libéraux sont rentrés minoritaires, Jean Charest avait réussi à négocier 1 milliard à titre de paiement de transfert, à titre de règlement en fait partiel du déséquilibre fiscal, et c'est 1 milliard qui a été donné en baisse d'impôts. Mais si on cumule l'ensemble des baisses d'impôts, on se retrouve avec 5 milliards de baisse d'impôts au Québec depuis le gouvernement Bouchard, finalement.
Incluant la baisse de la taxe sur le capital.
Oui, 5 milliards de baisse d'impôts au total au Québec. Et c'est le chiffre, en fait, qu'on essaie d'aller rechercher, finalement. Mm-hmm. Et là, on va le chercher. On va aller chercher de différentes façons. La première façon, c'est en comprimant les dépenses. On veut comprimer la croissance des dépenses au Québec. Actuellement, les dépenses de l'État augmentent de 4,6% par année. Pour l'ensemble des services, le budget du Québec, finalement, le coût du panier de services augmente de 4,6%. Et là, on veut ramener ça à 3,2%. Puis là, les gens, en général, quand on présente ça, les idéologues, ils reviennent en disant « Ah, mais tu sais, c'est plus haut que l'inflation. » Puis donc, ça donne une image où finalement, ça coûte cher, puis ça augmente trop vite et tout et tout. Puis bon, il y a un ensemble de raisons pour ça. Mais ce que les centrales syndicales essayent de soulever comme question là-dessus, c'est que l'augmentation des coûts est pas si pire que ça. Ils veulent la mettre en perspective. Et juste pour mettre en perspective, les 7 dernières années, au niveau du gouvernement fédéral, les dépenses ont augmenté de 7,6% par année.
Ouais, merci aux forces armées.
Oui, versus 4,6% ici. Ouais, mais eux, ils ont eu les forces armées, nous, on a eu les congés parentaux, on a eu tout plein de trucs. Donc, il y a une augmentation qui n'est pas si importante que ça. Et ce qui souligne aussi, c'est que la marge de manœuvre est mince dans la mesure où 70% des dépenses sont des dépenses de programme pour la santé et l'éducation. Mm-hmm. Et donc, comprimer là-dedans, ça devient compliqué. Et en fait, on a fait un exercice du côté syndical. On est allé demander à un professeur du département des sciences comptables et de la fiscalité de l'Université de Sherbrooke qu'est-ce que ça impliquerait le type de compression qui est proposée, puisque là, on parle de 800 millions dès l'année prochaine, 900 millions les suivantes, pour un cumulatif de 5 milliards de compression de dépenses dans les finances de l'État. Et on dit que, du côté de ce monsieur-là, ce professeur-là, il dit, c'est comme si on faisait disparaître d'un coup les ministères de la culture, du développement durable, du développement économique, de la famille, des aînés, des relations internationales, du tourisme, de l'agriculture et du travail. D'une claque. C'est à peu près le budget du ministère.
Disparaître le travail.
Non, le ministère du travail, pas le travail, évidemment.
C'est bizarre.
Et là, ben là, c'est ça, on fait comme, est-ce que c'est faisable? Et l'autre chose aussi, c'est que c'est un objectif qui est intensément ambitieux, dans la mesure où dans les 40 dernières années, c'est arrivé juste 7 fois qu'on a réussi à faire ça. À réduire la croissance des dépenses de cet ordre-là. Et ça correspond à chaque fois avec des moments de coupure exacerbés. Ça correspond aux années de Bourassa quand il coupe au maximum, et ça correspond aux années de Bouchard quand il coupe au maximum.
Sous Marois, ça se peut-tu?
Ouais, ben c'est ça avec
Marois, Landry
et compagnie-là, mais Lucien Bouchard quand il est au déficit zéro. Et c'est un moment qui est plutôt catastrophique à l'époque. En fait, on s'en relève à peine aujourd'hui. L'autre chose qu'on souligne aussi, c'est que, bon, on va aller chercher des tarifs et on va aller chercher avec des augmentations de tarifs divers des sommes importantes. En fait, il y a 5 milliards de dollars qu'il faut aller chercher, il faut d'une façon ou d'une autre, pour réussir à obtenir les mêmes choses. Et ce qu'on propose, en fait, du côté des mouvements sociaux et des syndicats, c'est de revoir la fiscalité. Là, il y a plusieurs niveaux où est-ce qu'on peut la revoir, mais tous des niveaux où est-ce que le gouvernement ne veut pas aller. Et une des choses qui est soulignée, entre autres, c'est de s'assurer que tous les secteurs contribuent. Et il y a des secteurs qui ne contribuent pas actuellement. Par exemple, les compagnies minières, il n'y a pas de redevances qui sont perçues. Et entre 2002 et 2008, il y a quand même eu 4,2 milliards de valeurs brutes de production annuelles qui ont été faites. Donc, mais il n'y a rien qui est perçu là-dessus. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Il y a évidemment toute la question du déséquilibre fiscal avec Ottawa qui se poursuit, puis du financement de la santé, des services sociaux et de l'enseignement supérieur. On parle encore de 800 millions qui
les bourses du millénaire
qui sont des bourses du millénaire qui reviennent pas. Et il y a aussi toute la question de l'assurance médicaments, mais on dit il y a aussi des mesures fiscales qu'il faut examiner. Et la bataille idéologique, et c'est là que ça se joue, puis c'est ça qui a fait les grands titres, c'est la question de la hausse des impôts. Mm-hmm. On vient de le voir, ça a été baissé radicalement depuis 10 ans. Mais non seulement ça, mais en plus, la progressivité de l'impôt a été réduite. Mm-hmm. Il y a un palier, en fait, qui a sauté. Et là, ce qu'on propose, c'est de revenir avec de rajouter un quatrième palier d'imposition au fisc québécois, finalement, pour aller chercher des sommes pour favoriser une meilleure redistribution de la richesse, parce que en se disant que les tarifs, c'est régressif, dans la mesure où, comme tout le monde paye les mêmes tarifs, mais finalement, les gens qui ont moins de sous en payent proportionnellement plus que ceux qui ont plus de sous. Mm-hmm. Et c'est pour ça, entre autres, que Claudette Carbonneau s'est fait traiter de communiste par Jean-Jacques Sanson, même si, par ailleurs, au fédéral, il y a 4 paliers d'imposition.
Mais c'est le Parti communiste du Canada.
Oui, c'est le Parti communiste du Canada, c'est le PCC qui est au pouvoir. Mais donc, c'est ça. C'est les questions qu'on se pose et tout ce débat-là est vicié parce que, bon, on nous dit, par exemple, là, le gouvernement a sorti un gros chiffre, le ministre des Finances a dit chaque enfant d'un an au Québec est endetté de 16 336 $.
On l'a déjà entendu souvent, celle-là.
Oui, sauf que ce qu'on souligne... par contre, du côté syndical, c'est que ce qu'on dit moins, c'est qu'est-ce que ça vaut les services publics. Et les services publics au Canada, en moyenne, là on parle, et au Québec, ils sont meilleurs, ils sont plus élevés. Selon le Centre canadien de politique alternative, c'est 16 527 $ par année que chaque Canadien va chercher des services publics. Donc, bon, il est endetté de 16 000 $, mais il va chercher 16 000 $ par année. Donc, c'est pas si mal. C'est même, en fait, un investissement intéressant. Surtout que 56% de cet avantage-là provient essentiellement des soins de santé, d'éducation, des vraiment de transfert aux particuliers, là, que ce soit le supplément du revenu garanti garantie, l'assurance emploi, la sécurité de vieillesse et tout. Et souvent on nous dit bon, les Québécois sont plus taxés qu'ailleurs, donc ça nous appauvrit. Québec est une société pauvre, il n'y a pas vraiment les moyens de ça. Et on est allé chercher en fait au niveau de la CSN des comparatifs. Pour avoir le même panier de services, combien est-ce qu'une famille normale, finalement, devrait payer de plus? On est allé chercher un couple avec deux enfants qui ont un revenu de 30 000 $. Donc, un couple, finalement, de classe populaire. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte que pour avoir le même niveau de service qu'au Québec, il devrait payer 2 800 de plus s'il était domicilié à Vancouver, 9 500 s'il était à Toronto, 18 500 s'il était à Philadelphie et 40 000 $ de plus par année s'il était à Boston.
Attends, il gagne 30 000 puis il faudrait qu'il en paye 40.
40 pour avoir les mêmes services qu'ils ont au Québec s'ils sont...
Fait qu'ils ont un déficit accumulé de 10 000 par année.
S'il était bostonnais, s'il vivait à Boston. Et ça, c'est explicable dans la façon où juste les assurances médicales privées aux États-Unis, la prime atteint facilement 7 000 $ pour une personne seule, 17 000 $ pour une famille de deux enfants. Mmh. Donc, c'est sûr que si ta prime d'assurance est 17 000, bon, à ce moment-là, tu te trouves gagnant au niveau de l'impôt. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui vont être traitées tout croche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui va falloir amener, puis ça va paraître bizarre un peu venant de libertaires, mais dans un contexte où on le sait pertinemment qu'il n'y en aura pas de réingénierie claire, ou est-ce qu'il n'y aura pas de modification majeure du panier de service, où il n'y aura pas de modification majeure au niveau de ce que l'État va faire, et où s'il y en a, ça va systématiquement aller contre les intérêts des classes populaires, premièrement, dans un contexte où on le sait qu'ils ne seront pas capables de revenir, parce qu'ils ont essayé récemment deux puis trois fois, où ils ne seront pas capables finalement de changer fondamentalement comment qu'est-ce que l'État dépense puis comment est-ce qu'il dépense, dans un contexte où toute tarification, toute hausse de tarification, toute nouvelle avenue de répartition va systématiquement venir être régressive puis aller chercher plus d'impôts juste dans l'ordinaire, puis va permettre d'accroître l'écart entre les riches et les pauvres. Mais dans ce contexte-là, ça va paraître paradoxal, mais il reste que l'impôt reste la façon la moins pire d'aller chercher cet argent-là, et qu'effectivement, mais coudonc, il faudra que le gouvernement reconnaisse, à moins qu'il bouge dans un autre sens. La seule solution dans ce contexte-là, la solution qui soit la moins pire, c'est de reconnaître que finalement les baisses d'impôts des dernières années n'avaient pas de bon sens, puis de revenir à une fiscalité plus progressive.
Ça arrivera pas. Le gouvernement, il connaît ses intérêts de classe, lui.
Eh oui, mais il empêche que c'est pas dans nos intérêts à nous qu'il est dans ce sens-là. Donc ça. Concrètement, revenez chercher le 15-20$ que vous me donnez de plus de par deux semaines. Pour permettre de continuer dans cette veine-là.
Ouais. Aller ramasser le plus gros mouton qui reste dans les poches dans le palier, justement, qui est disparu. Mm-hmm. Mais juste pour compléter un peu, justement, sur où on pourrait aller chercher cet impôt-là, justement, la nouvelle dont je voulais amener, c'est ça, le par rapport au Centre canadien de politique alternative. Dans le fond, c'est les 100 patrons au Canada là, qui sont 174 fois mieux payés en moyenne que la moyenne des travailleurs.
On dirait que ça a baissé.
Oui, ça a baissé pour cette année à cause de la crise, là, parce que ça a été 400, je
400
pense,
en
2007. Non, en fait, ce qu'ils disent dans la recherche, c'est que depuis 95, ça n'a cessé de monter. Okay. Ça a monté vraiment en fou, parce que genre, en 95, c'était quelque chose comme 100 à 120 fois. Puis là, de fil en aiguille, d'année en année, ils ont augmenté ce ratio-là pour atteindre un sommet en 2007. Puis là, avec la crise, ils ont rabaissé un petit peu, sauf que ça reste quand même absolument énorme. Puis c'est quand même, on parle là, d'une moyenne de salaire annuel de 7 300 000. Puis on parle par rapport à 42 000 pour la moyenne des salariés. Puis ça, c'est comparé, c'est la moyenne de tous les salariés, mais si on prend les salariés, les bas salariés, c'est quelque chose autour de 18 000.
Oui, parce que la moyenne de 42 000, ça inclut aussi les titos à 7 millions. Hein.
Ça inclut, mais ça inclut la petite bourgeoisie là, ouais, à
700 000.
Ça inclut toute la grosse moyenne, effectivement. Mais bref, c'est ces personnes-là ont aussi été ceux qui ont profité le plus des baisses d'impôts des dernières années, dont celle de 2007, et aussi de la baisse des impôts sur le capital, parce que une grosse partie de leur salaire est payée en une option d'achat d'options, là, pas option d'achat d'options, option d'achat d'actions, qui des actions, bref, là où ce qu'ils peuvent jouer sur le prix de l'action au moment où ils vont la recevoir par rapport au moment où ils vont la vendre. Donc ils peuvent comme dire qu'ils l'ont acheté au moment où ce qu'elle valait le moins cher, mais la revendre au moment où elle valait le plus cher. Donc le profit entre ces deux moments-là devient peut devenir faramineux. Et aussi une partie de leur salaire qui est presque pas taxée. Là, on parle du cinquième d'imposition par rapport à on pourrait aller à presque 40-quelques pourcents là, pour le dernier palier d'impôt. Là,
on n'est pas rentré dans les fiducies familiales et autres arnaques.
C'est ça. Quand tu as les moyens, il y a toujours moyen d'aller en chercher
j'ai
plus.
J'ai demandé au Martin, là, celui qui a été premier ministre, là, un petit bout. Là.
Ouais. Fait que non, c'est ça. On voit bien qu'il y a effectivement un écart qui est réel, puis un endroit... C'est ça. On voit qui veulent laisser avantager à travers tout ça. Puis oui.
Mais les temps changent par rapport à ça, parce que je regarde ça, là, je l'ai entendu à Radio-Canada, je l'ai vu en une du devoir, cette nouvelle-là, puis il me semble que par les années passées, tu me corrigeras, Farouko, mais c'était relativement obscur comme traitement. Parce qu'elle revient à chaque année. Cette nouvelle-là revient. Le centre sort son analyse à chaque année. Mm-hmm. Mais c'est la première fois que moi je vois que ça fait la une des journaux.
Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que ça a rebaissé, en fait. La nouvelle, c'est que ça a rebaissé.
C'est pas comme ça qu'il la joue.
Non, en fait, ce qui est sur la une du devoir, c'est les crises. T'as le gros titre, là, c'est un patron 174 fois mieux payé. Puis le sous-titre qui est les crises n'ont aucun effet sur les salaires stratosphériques versés au Canada. Ouais. Fait que, aucun effet. Il y en a eu un léger, mais il est très léger. Parce que rendu dans ces chiffres-là, on s'est entendu que 100 fois de moins, 100 fois de plus. Mais il y a cet aspect-là, mais il y a un aspect qui est aussi assez important dans le traitement, là, qui j'imagine qu'il est là dans toutes les années, comme tu disais, mais pour la recherche, sauf que là, ce qu'ils ont amené dans l'article, c'est par rapport à l'inflation, c'est que depuis 95, par rapport à l'inflation, les augmentations de salaire pour les patrons sont de 70%, alors que pour la moyenne des travailleurs travailleuses, ben c'est une baisse de 6% par rapport à l'inflation des revenus des ménages. Fait que c'est quand on rajoute des tarifs à travers ça, ben effectivement on voit encore que en bas de l'échelle, on est plus perdant encore.
Ça, c'est la pointe de l'iceberg des inégalités, parce que tu vois, on peut le voir, ça, c'est les gros riches, puis effectivement, après ça, la droite peut s'attaquer en disant « Ah, mais c'est populiste de regarder ça de cette façon-là. C'est 100 patrons, 200 patrons, on va pas renflouer les coffres de l'État avec ça, blablabla. » Mais si on regarde, les écarts ont continué de se creuser au Québec depuis 15-20 ans, et là, je regardais récemment là, la présentation budgétaire du collectif pour un Québec sans pauvreté dans le même cadre des trucs là, que la CSN, là, finalement. Et ils soulignaient que c'est les revenus stagnants, finalement, de la classe moyenne. Et eux, ils vont par quintile de revenus. Donc, le quintile moyen et le quintile le plus pauvre qui est stagnant et en fait qui régresse si on compte carrément là, avec l'inflation. Et on est rendu où au Québec, entre le quintile des salariés, le quintile le plus riche et le quintile le plus pauvre, le quintile le plus riche fait en moyenne 12 fois le revenu du quintile le plus pauvre. Donc, tu sais, les patrons, c'est la pointe de l'iceberg par rapport à la structure de classe qui se situe. Et c'est ce quintile-là, justement, que la CSN veut attaquer en disant que ça prend un nouveau palier d'imposition pour les gens qui gagnent plus de 125 000 $ par année. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, rendu là, puis là, après ça, on pourrait revenir aussi sur les déductions de REER, sur les fiducies familiales, sur les CELI, sur toutes ces affaires-là. Là.
Mm-hmm. Ah oui.
Parce que ces gens-là ne payent pas leur chute-part.
Oui, effectivement. En attendant, on va aller en musique. Des questions de se dégourdir un peu les oreilles et on va aller avec Jeunesse Apatride qui nous chante « À ma révolution ».
bonsoir, c'est Capitaine Gingras de la Patrouille 86. Et j'aimerais ça que vous nous prépariez deux cafés.
OK, c'est deux grands?
Oui, deux grands.
OK, un le sec, l'autre le sec. OK, oui.
OK, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonsoir. C'est 4.
Vous écoutez Voix de Fée!
De retour à Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Alors, on est actuellement en pleine période de renouvellement des baux. Ça, c'est le contrat de location, finalement, d'un logement. Pour l'immense majorité des locataires, ceux dont le bail se termine le 30 juin, ça se passe entre le 1er janvier et le 31 mars, aussi bien dire maintenant. Et il y a de plus en plus de propriétaires qui envoient ça dès le 1er janvier, les avis d'augmentation de loyer.
Ouais, en fait, envoyer ça le renouvellement de bail. Avant que la régie sorte leur recommandation.
Ben oui.
En fait.
Effectivement.
Pas fou.
Mais en même temps, des fois, ils peuvent se gourer un peu.
Oui, mais nous, on n'est pas obligé de répondre avant le 31 mars.
Non, t'es obligé. C'est justement ce que je vais expliquer.
Maudit. Vas-y.
En fait, le renouvellement de bail, en général, ça vient avec une augmentation de loyer. Au Québec, une augmentation de loyer là, qui peut être assez salée. Au Québec, comme il y a le droit au maintien dans les lieux qui est reconnu dans le Code civil, finalement, le bail est reconduit automatiquement année après année. Sauf s'il y a modification. Donc, normalement, on reste dans son logement. Et il y a un avis de renouvellement de bail qui est envoyé à chaque année. Des fois, il n'est pas envoyé, mais qui est envoyé à chaque année pour amener des modifications au bail et entamer une négociation, finalement, sur les modifications au bail. La principale étant, en général, la hausse de loyer. Et on a le droit, au Québec, depuis 1980, on a le droit de refuser une hausse de loyer tout en conservant son logement. Donc, on a le droit, finalement, de négocier. C'est plus... Si ça fait pas ton affaire, tu t'en vas. On a le droit, finalement, légal de négocier les conditions du bail. Comment ça se passe? C'est que le propriétaire a le droit d'augmenter le loyer une fois par année au renouvellement du bail. Il n'a pas le droit en dehors de cette période-là. Puis, il y a des délais légaux qui s'appliquent. Comme on le disait, sur un bail d'un an, là, pour la majorité des gens qui déménagent le 1er juillet, le moment où ça se fait, c'est de 3 à 6 mois avant la fin du bail, donc entre le 1er janvier et le 31 mars. Et comment ça se fait? Il faut qu'il y ait un avis écrit qui soit envoyé au locataire et Pour ça, les gens y répondent. Si tu réponds pas à ton avis écrit, c'est considéré comme étant, comme t'as accepté finalement de renouveler ton bail aux conditions qui sont données par ton propriétaire. Et en fait, les gens ont un mois, et non pas jusqu'au 31 mars, ils ont un mois à partir de la réception de l'avis de renouvellement pour finalement refuser, accepter ou accepter la hausse de loyer. Ou dire qu'ils ne renouvelleront pas leur bail et qu'ils vont quitter donc le 1er juillet. On a un mois à partir de la réception. Et c'est important d'avoir des preuves qu'on a bien répondu dans les délais. Et il arrive qu'il y ait des gens qui ont soit des bonnes relations avec leur propriétaire, soit qui sont que ça leur dérange pas d'avoir des mauvaises relations, qui réussissent à avoir un reçu signé de leur propriétaire, mais ce qui est suggéré la plupart du temps par les comités logements et associations de locataires, parce que justement l'immense majorité des gens, c'est pas une période de relation super tripante, là, le renouvellement des baux, puis le refus de l'augmentation de loyer, on suggère de l'envoyer par courrier recommandé au propriétaire. Comme ça, on s'assure d'avoir sa signature puis d'avoir une garantie, finalement une preuve légale qu'on a refusé dans les temps.
C'est pas très cher, là, c'est en bas de
7$.
Ouais, c'est ça, c'est en bas de 10$.
C'est 7$ pour avoir un truc. Donc si vous voulez déménager en juillet, c'est le temps de le dire au moment du renouvellement. Et faites attention, là, si vous voulez déménager à Québec, là, les logements libres courent pas les rues actuellement. Là, on parle de 0,6% de taux d'inoccupation.
Mais il n'y a pas de crise, OK, là?
Non, il n'y a pas de crise, mais il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de crise du logement parce qu'il n'y a pas de logement.
Parce que les gens qui sont en crise n'ont pas accès aux médias.
Oui, effectivement. Et donc, c'est ça. Ceci dit, il faut savoir que les propriétaires ont le droit d'exiger des hausses de loyer, malheureusement, même s'ils n'ont rien fait, même si la régie admet tout le temps qu'il y a des... La régie, en fait, son principe de base, c'est que les loyers, normalement, doivent augmenter à chaque année. Après ça, ce qu'elle essaie d'encadrer, c'est comment qu'ils augmentent. Et il y a plusieurs façons de... Ben, en fait, il y a une façon de calculer sa hausse de loyer. Les propriétaires, normalement, on devrait se fier à un indice et à un ensemble de chiffres qui sont dus à chaque loyer. Mais bon, la régie publie à la fin du mois de janvier, normalement, début du mois de février, des indices qui sont des taux, finalement, généraux pour donner une idée aux locataires d'un ordre de grandeur là, normal, mais il y a aussi des formules de calcul. Et ce qui fait fluctuer, ce qui change il n'y a pas de taux fixe pour l'ensemble des loyers, c'est vraiment selon la situation spécifique de chaque
type de chauffage.
Ouais, c'est ça. Ce qui peut rentrer en ligne de compte dans une augmentation de loyer, t'as effectivement le type de chauffage. Si c'est chauffé par le propriétaire, si c'est chauffé par le locataire, si c'est chauffé par le propriétaire, meuble ou non, ça joue pas. Si c'est chauffé par le propriétaire, c'est selon le type d'énergie qui est utilisé. Mais il y a deux choses en fait qui rentrent en ligne de compte, qui sont très importantes et qui peuvent faire fluctuer beaucoup l'augmentation de loyer par rapport au taux de la régie. La première, c'est les hausses de taxes municipales qui sont systématiquement refilées aux locataires à raison de à peu près c'est 0,5% pour chaque 5% de hausse. Mais enfin bref, il faut vérifier auprès de la municipalité s'il y a effectivement eu hausse de taxes. Et ça, c'est disponible sur le site web de la ville là, à rôle d'évaluation. Vous allez pouvoir savoir comment l'immeuble a augmenté. Et l'autre chose, taxe scolaire, taxe municipale. Et l'autre chose, c'est s'il y a eu des rénovations majeures, les rénovations sont aussi refilées. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que les propriétaires veulent refiler les coûts des rénovations cette année-là. Ou en tout cas, ils essaient de refiler beaucoup plus, alors que la régie, elle... Ce qu'elle comprend, c'est qu'une rénovation, c'est un investissement qui doit se rembourser sur un temps X et qu'à ce moment-là, tu sais, ils font comme... Ce qu'ils peuvent refiler, c'est à peu près ce que ça va coûter l'emprunt, finalement, pas la totalité. On se comprend? Donc, c'est des nuances qui sont importantes à faire. Et voilà. Donc, il y a possibilité de calculer sa hausse de loyer. Et évidemment, si... mais ça, c'est quand on a toute l'information... Et on n'a pas actuellement toute l'information parce que, ben, justement, les indices ne sont pas sortis. Mais bon, toujours est-il que lorsque les indices vont sortir, et on va en reparler à voix de fait, si l'augmentation que votre propriétaire vous demande est plus importante que l'indice qui est suggéré par la régie, ça vaut la peine de creuser puis de vérifier. Et il est tout à fait possible de refuser une hausse de loyer et de garder son logement. Ceci dit, il faut quand même... avoir une bonne idée si on est correct ou pas. Comment ça se passe? C'est pas compliqué. Si l'augmentation qui nous est proposée fait pas notre affaire, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une lettre, justement, courrier recommandé, on répond à l'avis de renouvellement, et on dit, je veux conserver mon bail, mais je refuse l'augmentation proposée. Et ensuite de ça, le propriétaire a un délai de 30 jours pour entrer en négociation avec vous ou ouvrir un dossier à la régie du logement. Et bon, des fois, les gens ont peur de se retrouver à la régie du logement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a moins de 1% des logements qui sont des loyers qui sont fixés par la régie du logement. Parce que les propriétaires n'aiment pas ça aller là. Ben un, c'est long, puis c'est plate, même si c'est pas si long que ça. Mais c'est surtout que la plupart du temps, les frais sont à la charge du propriétaire, les frais d'ouverture de dossier. Donc, ça va coûter 75$ pour finalement se retrouver avec une augmentation qui couvrira peut-être pas la première année. Et toute l'information, en fait, est sur le site web de la Régie du logement, là, qui est rdl.gouv.qc.ca. Et voilà. Donc, vous pouvez refuser. Si vous l'acceptez, évidemment, vous n'avez rien à dire, parce que de toute façon, le renouvellement est automatique aux conditions fixées. Si vous avez des questions, puis on va revenir là-dessus là, dans les semaines qui viennent. Mais si vous avez des questions à ce sujet...
Farouko, il y a une question.
J'ai une question. Oui. Le renouvellement, le papier de la part du propriétaire doit être remis en main propre et courrier recommandé, ou il peut juste le laisser dans la boîte aux lettres comme ça?
Ben, il pourrait juste le laisser dans la boîte aux lettres comme ça, sauf que l'immense majorité des propriétaires font le tour, que ce soit eux ou leur concierge ou leur chargé de pouvoir, et ils font signer des avis.
Parce que s'ils laissent dans la boîte aux lettres comme ça, ou
tu peux toujours dire que tu l'as poursu.
C'est ça.
Mais bon, après ça, les régisseurs sont en général très compréhensifs avec les propriétaires sur le fait qu'il ait reçu ou pas reçu. Et donc, c'est ça, on vous suggère finalement d'aller chercher plus d'informations auprès là, d'un des groupes populaires là, du centre-ville, que ce soit le BAI ou le comité populaire. D'ailleurs, le Compop, sur son site web, a beaucoup d'informations là-dessus. Alors, c'est le www.compop.net. Et c'est important de s'occuper de ces questions-là parce qu'il n'y a pas de contrôle des loyers au Québec. Il y a un contrôle des loyers qui est strictement volontaire et qui dépend en fait de notre bonne volonté comme locataire. C'est-à-dire que c'est à nous finalement, c'est au locataire, d'assurer le contrôle des loyers en vérifiant que les hausses ont du bon sens et en les contestant si elles n'ont pas de bon sens. Et on le voit, la plupart des gens donc le font pas, il y a seulement 1% des loyers qui sont fixés par la régie. Il y a beaucoup de gens qui vont négocier avec leur propriétaire, mais ce que ça fait, c'est que dans une situation comme on est depuis une dizaine d'années, une situation de pénurie, c'est les propriétaires qui ont le gros bout du bâton, et visiblement, ils font du rattrapage actuellement. Si on regarde là, les loyers moyens dans la région de Québec en avril 2009, c'était rendu $651 dans la région de Québec, et en fait on est rendu la deuxième région la plus chère au Québec. Il y a juste Hall-Gatineau qui est plus cher que nous. Maintenant on est plus cher que Montréal, on les a dépassés. On était au même niveau qu'eux l'année passée, puis maintenant on vient de les dépasser. Là, c'est le loyer moyen est plus cher à Québec. Et en fait, si on regarde depuis 2000, c'est une hausse de 30,5% des loyers qu'il y a eu dans la région de Québec. C'est 30% de plus que l'inflation, en fait, carrément. Donc, bref, si on n'est pas à nos affaires, on se fait arnaquer. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que sur le coup, quand tu reçois ton augmentation de loyer, tu te dis, je vais-tu me battre pour 10$? Il y aurait le droit à 7$, ou il y aurait le droit à 5$. Je vais-tu me battre pour 10 ou 15? T'sais, dans le fond, c'est pas si pire que ça. T'sais, une augmentation de 10$ par mois, surtout sur un loyer qui coûte 500, 600, 700$. Sauf que, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le 10$, il est cumulatif. C'est que l'année d'après, il va te remettre un 5, un 10 dessus. Et c'est à force de 5, 10, 20, 25 piastres que les loyers deviennent inabordables. Parce qu'évidemment, nos revenus, comme tu l'as souligné à plusieurs reprises, Farouko, n'augmentent pas à ce rythme-là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des augmentations hallucinante, je veux dire.
On se ramasse à 700$ pour un 2,5. Des affaires hallucinantes. Là.
Mais en fait, si on regarde les chiffres, puis je vais terminer là-dessus, à Québec, là, le loyer là, en 1999, là, comment tu le payais en 1999, puis le loyer moyen aujourd'hui, c'est comme si tu payais 15 mois de loyer maintenant, mais sur un an. 15 mois de loyer de 99 pour le même logement. Donc, c'est sur ça que je vais terminer mon truc sur les hausses de loyer. Puis, ben, on va y revenir quand on aura les indices de la régie, mais je voulais juste être certain que tout le monde sache qu'on peut effectivement contester une hausse de loyer, puis qu'on a le droit de le faire et qu'il faut le faire, en fait, quand elles sont évidemment, quand elles sont abusives. Parce qu'il arrive qu'il y a des propriétaires qui donnent des hausses de loyer qui sont pas abusives, et si on les conteste, ben le régisseur va tout simplement donner raison au propriétaire, on va avoir la hausse de loyer, plus les frais de la régie.
Ça, c'est plate. On va continuer en musique avec une vieille pièce de La Gâchette qui s'appelle « Unité ».
De retour à Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, où ailleurs pourrions-nous entendre de la si belle musique?
C'est tout doux, c'est de la poésie à mes oreilles.
De la poésie à tes oreilles, oui. Décrasse-toi les oreilles. Petite nouvelle locale, justement, parlant de crasse. Il y a la convention collective des employés de Papier White Birch, c'est la papetière dans Limoilou, là.
Qui est fermée encore aujourd'hui.
La Donnacona, oui. Qui prévoit qu'il faut payer temps trip pendant le temps des fêtes. Alors, les boss, ils trouvent que c'est trop cher. Alors, cette année, ils proposaient de payer temps et demi. Disons, on est capable de garder la production, faudrait payer temps et demi, pas temps triple. Évidemment, les ouvriers ont refusé, mais pour contourner la convention collective, les patrons ont décidé de fermer l'usine à Noël et au jour de l'an, quelques jours. Ce qui a placé leurs 500 ouvriers en chômage technique et vacherie par-dessus vacherie, évidemment... pas moyen de collecter du chômage pour quelques jours de chômage. Et selon Radio-Canada, qui, à ma connaissance, est le seul à avoir rapporté la nouvelle, cet arrêt de travail-là a porté à 76 le nombre de jours de congés forcés des employés de la papetière en 2009.
Ils sont en 80, là, aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, à la fin du trouble qu'ils ont actuellement.
Oui, sauf que là, ça va être sur 80 parce que c'est fini 2009. On est en 2010 depuis 5 jours, ça.
Oui, mais il disait que dans l'année de fonctionnement, ou je sais pas, l'année fiscale, ou je sais pas, appelle ça comme tu veux.
Méchant de gang de cheap. Peuvent bien gagner 174 fois notre salaire.
Oui, oui, oui. on va aller plus du côté de cette île maintenant. C'est ça, on en a parlé avant Noël, là. On en parle encore une fois de temps en temps aussi, un peu partout dans les médias, du projet de mine d'uranium qu'il y a là-bas. C'est un petit retour pour dire, c'est ça, la dernière fois, là, quand moi j'en ai parlé, je sais pas si toi t'en avais reparlé après, mais c'est ça, il y allait avoir une manifestation. Finalement, la manifestation, ça a été un beau succès, là. Il y a eu plus que 1000 personnes qui ont marché pour une ville de 26 à 30 000, je crois, habitants à cette île, c'est quand même très bon.
Il y a eu une certaine tradition syndicaliste, mais des années 70, si je me rappelle.
Oui, effectivement.
Mais c'est loin d'être la même génération. Puis on est loin d'avoir encore une tradition de manifestation puis d'action populaire du genre là-bas. Là.
La ville a été autogérée là, entre guillemets, pendant peut-être quelques jours là, dans les années 70, soit effectivement.
En 1972.
Oui.
C'est une autre histoire.
Une autre génération.
Mais il y a sûrement des gens qui sont encore là ces jours-ci. Mais après la manifestation, il y a eu la ville a demandé un sondage là, par la firme Léger Marketing qui finalement confirme si on en avait encore besoin qu'il y a effectivement une opposition populaire très forte. Donc on parle de 80% des personnes de la ville qui sont tout à fait défavorables, puis 11% qui sont plutôt défavorables. Donc on arrive à 91% d'opposition avec une marge d'erreur de plus ou moins 3%, mais quand même, là, on s'entend rendu à ces pourcentages-là, c'est extrêmement fort. C'est le maire qui dit on a plus de substance à notre prétention aujourd'hui, on a des chiffres à l'appui pour montrer que la population n'en veut vraiment pas. Ils vont continuer à pousser leur lutte grâce à cette nouvelle confirmation de l'opposition. Là. Puis ça continue la lutte. Il n'y a pas plus d'informations que ça, sinon que c'est...
Mais avant les fêtes, le front du refus s'est élargi. En fait, c'est rendu tellement large que même les chambres de commerce s'en comptent. Il y a eu une délégation là, de cette île qui est venue à Québec rencontrer Laurent Lessard, c'est ça?
Les mines, oui, je pense que c'est ça. Ouais.
En tout cas, puis c'est ça, puis il est accompagné justement là, de l'ensemble des acteurs économiques, là, un pôle de développement machin, puis chambre de commerce et tout et tout. C'est quand même...
Ça part de la CRE, là, de la commission du Conseil régional des élus, là, c'est l'opposition, donc puis les médecins aussi, mais ça a été dans les premières instances qui ont été contre, ça a été ça. Donc, quand même, c'est très large comme opposition.
Est-ce qu'on a le temps de faire quelques nouvelles américaines?
Il te reste 3 minutes.
Il me reste 3 minutes. Ok, je vais t'en faire 2.
T'es capable.
Parlant de sondage, il y a une progression de on peut mesurer maintenant la progression de la barbarie aux États-Unis. J'ai lu ça sur le blog de Jean-François Lisée ce matin, mercredi matin. 58% des Américains seraient favorables à ce que l'auteur de l'attentat manqué du 25 décembre, le Nigérian Umar Farouk Abdulmutallab, soit soumis à la technique de la noyade stimulée, le waterboarding, pour qu'il donne des informations sur ses complices d'Al-Qaïda. C'est selon un sondage Rasmussen qui est disponible sur Internet, 30% sont d'avis inverse. Donc 58% des Américains favorables à l'utilisation de la torture, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, ça ressemble fort à la progression de la barbarie. Et à ce sujet-là, moi j'ai trouvé un autre phénomène que personnellement je trouve fascinant dans le cadre de cet attentat-là. C'est le père de l'aspirant terroriste qui aurait dénoncé son fils aux autorités américaines parce qu'il jugeait qu'il devenait radical et potentiellement dangereux. Apparemment que c'est un type de dénonciation qui est de plus en plus fréquent. On pourrait se dire, tant mieux si ça peut empêcher les attentats meurtriers, effectivement. Sauf que, c'est quand même troublant. Dans ma tendre jeunesse, qui, contrairement à toi, Farouko, se passait à la fin de la guerre froide, on pouvait lire des récits épouvantables dans lesquels des jeunes soviétiques des années 50 dénonçaient leurs propres parents dissidents aux autorités.
Ouais, mais là, c'est pas pareil.
Non, mais... On disait que la dissolution de la fidélité familiale au point d'envisager la délation s'était présentée comme le summum de l'emprise totalitaire du régime stalinien sur la société. Et puis là, ben là, voilà, t'as des pères qui dénoncent leur fils qui devient radical. Le père, il y a rien qui dit que le père savait qu'il allait faire un attentat terroriste. Le père savait qu'il devenait radical et donc potentiellement dangereux.
Ouais. Mais ben, c'est ce qu'il aurait dit aussi. Il l'a pas dénoncé en tant que terroriste. Il a dit, mon fils s'en vient.
Mon fils est un militant islamiste. C'est dangereux. Sinon, autre petite nouvelle sur les États-Unis. Bon, moi, je trouve ça troublant. Personnellement, même si je comprends si effectivement j'avais connaissance qu'il y avait un attentat terroriste sur des civils qui se préparaient, probablement que moi aussi, je prendrais mon téléphone puis je dirais, est-ce que je pourrais rencontrer quelqu'un du service de police? Mais ça, c'est une autre histoire. Faut pas dire ça quand on est anarchiste.
Non, puis il te reste 3 secondes et quart.
Bon, ben on coupera ça au montage. Non, c'est pas vrai. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. On va laisser faire la dernière nouvelle. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire notre blog avec votre fait avec un x et un s.blogspot.com.
Oui.
C'était Nicolas.
Avec Guillaume.
Et Farouco. Qui t'a coupé ce sec cette semaine.
Bien fait.
$20, c'est le prix d'un CD chez un disquaire. Mais saviez-vous que pour $20, vous pouvez aussi appuyer CKIA FM en devenant membre de la station? Avec sa programmation diversifiée, la musique francophone, le jazz, la musique du monde, le heavy metal, la musique électronique, le classique et toutes les nuits en musique, ça revient pas cher la chanson. Et avec tous les rabais offerts chez nos marchands partenaires, parions que vous y trouverez vite votre compte. Pour devenir membre, joignez-nous au 529-9026 ou visitez notre site web au www.ckiafm.org.